Domenech et Lynn Paget.
Grand format Léo Ferré, poète, chanteur, compositeur, pianiste, chef d'orchestre, 350 chansons. Mon Dieu, toute une vie en musique et pour nous, une formule, Léo Ferré est de retour après 5 ans de silence médiatique. Alors l'homme, le père, le mari accepte enfin de jouer au jeu de l'interview, ce qui n'est pas toujours facile avec vous, ce qui n'est pas toujours le cas, et de rencontrer surtout les témoins d'hier et d'aujourd'hui. Comme Léo Ferré, le premier de vos témoins, Richard Marsan, votre inséparable.
J'ai connu Léo dans les cabarets. Alors, ce qu'il disait à l'époque, il pensait peut-être plus à la musique qu'au musicien et poète, il est devenu, si vous voulez. Il pensait davantage à la musique classique, hein, j'entends. Il m'a toujours dit qu'il avait commencé à écrire parce qu'en fait, il ne trouvait pas les auteurs vraiment qui lui convenaient, à part un ou deux, bien sûr, et tel que Bayer Francisco, enfin, ceux du début, bon, et notamment notre ami Lucas Simon, bien entendu. Mais c'est venu plus tard, ça. Et au début, il a écrit, lui. Mais de toute façon, il était très, très, très préoccupé à cette époque, comme maintenant d'ailleurs, par la musique classique. Je crois qu'il avait l'intention, déjà à l'époque, de faire une carrière de musicien classique, de chef d'orchestre, enfin de diriger ses œuvres, quoi.
Oui, Richard. Oui. Ah ben, je le connais il y a très longtemps, comme il dit. Et c'est un garçon que j'aime beaucoup, parce que. On se connaît bien profondément, quoi. Très gentil. Et c'est un type qui avait beaucoup de talent, qui je dis qu'il avait, parce qu'il fait plus ça, maintenant il fait autre chose pour travailler. Un jour, je lui ai demandé pourquoi t'as arrêté. C'était un imitateur, mais dans le bon sens du terme, voyez-vous.
Richard Marsan, oui.
Oui. Et alors, je lui ai dit pourquoi t'as arrêté. Et il me dit, ce que tu veux, les gens que j'imitais sont tous morts.
Alors Richard Marsan a été tellement proche de vous que vous l'avez d'ailleurs, vous lui avez dédié une chanson, vous l'avez décrit dans Monsieur Richard, ça c'est lui. Mais il évoque ce mot de poète, on a souvent dit poète et anarchiste d'ailleurs. C'est en général les deux étiquettes qui vous collent à la peau. Est-ce que vous les acceptez toujours? Est-ce que vous avez changé? Vous êtes toujours poète? Êtes-vous toujours anarchiste?
Mais vous savez, quelqu'un qui écrit comme ça ne se dit pas qu'il est poète. Hein. Moi je ne me suis jamais dit que j'étais poète, j'y ai écrit, c'est parce que j'avais de la voix pour chanter, parce que j'avais pas dû chanter. Ce que j'écris, je n'aurais pas écrit, vous voyez. J'aurais pas, vraisemblablement pas fait de musique, parce que je crois que c'est encore plus difficile pour un musicien de se faire connaître, de se faire entendre. Moi, c'était plus facile dans une certaine mesure, puisque, bien qu'au début, ça n'a pas été la joie, mais je chantais dans les cabarets, je vivotais, quand je dis vivotais, vraiment, je n'exagère pas. Des fois, je vivais à peine. Mais enfin, je me suis habitué à ne pas être un artiste, un musicien de dimanche, voyez-vous. J'aurais toujours... Je ne m'en rêve plus, ça.
Pourtant, quand on a pour formation le droit à Sciences Po et qu'on sort de l'école des frères des écoles chrétiennes, c'est un petit peu étrange comme...
Non, c'est parce que je n'avais pas choisi ça. D'abord, vous imaginez bien que je n'ai pas choisi d'aller chez les frères des écoles chrétiennes. Je suis rentré, j'avais 9 ans. J'en suis sorti 8 ans après. Et...
C'était dur?
Oui. C'est dur, mais vous savez, les enfants qui sont dans un collège sont en prison, ils ne le savent pas. Mais les parents devraient le savoir qu'ils mettent leurs enfants en prison. Et ça, il ne faut pas mettre les enfants en prison. C'est pas très bien.
Et pourtant, il faut leur donner quelques passeports pour demain, parce que la société n'est pas tendre avec ceux qui n'ont pas de rigueur.
Ben, vous savez, la rigueur, ça s'apprend chez soi, dans son cœur et dans sa tête. Et si on veut ça, quoi. Puis j'ai fait du droit parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. Et il fallait que je donne l'impression à mon père que je faisais quelque chose, voyez-vous. Et je me cachais de la musique parce que un artiste qui est un artiste, mais moi j'étais tout jeune artiste, mais d'abord, je ne le savais pas. Le jour où je l'ai su, je me suis caché parce que les gens ont tendance à se moquer d'un artiste qui n'est pas connu, vous comprenez? Se moquer, mais comme ça, gentiment, quoi. Ma mère m'appelait, oh, poète, poète. Et donc, je suis rentré en moi-même, comme on pourrait dire, et puis j'ai J'ai un peu souffert de cette solitude, quoi. La solitude, c'était inévitable pour l'artiste. Maintenant, pour l'anarchisme, vous savez, c'est un mot que je n'aime pas parce que moi, je ne suis pas pour l'anarchisme. L'anarchisme, c'est une façon politique d'être anarchiste. Moi, je suis... L'anarchie, c'est la négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. J'avais vu ça dans un petit Larousse que j'avais 14 ans, j'avais été voir ce mot-là. Et j'ai vu une négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je trouve que c'est aussi beau que l'amour. Vous savez, l'anarchie, ça n'est pas la bombe, ça n'est pas le... L'anarchisme, ça n'est pas pareil. C'est la façon politique de s'exprimer avec cette négation de toute autorité, c'est autre chose. L'anarchie, c'est la solitude, vraiment. Alors, il n'y a pas de raison que je ne sois pas anarchiste.
Léo Ferré, nous parlerons de vos engagements sincères et nombreux tout à l'heure au cours de l'émission. Nous avons une heure et demie devant nous. Écoutons une chanson. Pour commencer, peut-être pas un titre de vous, mais quelqu'un que vous aimez particulièrement en ce moment. Je vous prends comme ça au dépourvu. J'aimerais connaître vos goûts.
Mais vous savez, j'écoute les chansons comme tout le monde. Je veux dire, je n'ai pas cherché exprès des gens pour les entendre parce que je ne veux pas les écouter avec l'oreille des professionnels parce que ça n'a rien à voir avec les gens. Ils chantent comme ça, ils plaisent ou ils plaisent pas. Admettons qu'on voulez-vous passer tenez une chanson de Renaud.
Mais rarement sa famille. Y'a un gonce mine de rien qui a marié ma frangine. Depuis c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, juste un sacré pauvre mec. Mon beau, il lui a fait quatre gosses pour toucher les allocs. Il fait coup de la nuit de noces dès qu'elle est plus en cloque. Cette espèce de trou-duc qui a fait 10 ans de légion. Mon mille les éduque à grand coup de ceinturon. Le jour où les cons iront pointer, on le verra au bureau d'embauche. Mon beau, il a les roues flaquettes, un costard à carreaux, des moustaches, une casquette et des pompes en croco. Il se prend pour un vrai mec, mais il craint un petit peu. Pour tout dire, il est presque à la limite du hors-jeu. Mon beau, à chaque fois qu'il culbute une collègue de bureau, ou qu'il va se faire une pute sur un garçon blaireau, il dit que c'est pas trompé, que c'est juste pour l'hygiène, et que si sa femme l'imitait, il la sommerait à coups de beigne. Le jour où les cons sont cuisiniers, c'est lui qui préparera les sauces. Mozart du Walkman, et puis dans sa R16, il y a la Cibi, tu penses. 73, la station, tête d'honneur en fréquence. Mon beau, et bonjour la culture, il est hachement balèze. T'as qu'à voir ses lectures, ça casse des barreaux de chaise. PSD Paris Match, et puis Télé 7 jours, qui bien sûr chaque année, il s'offre le prix Goncourt. Jour où les cons seront plus à droite, il y a peut-être une chance qui vote à gauche. Mon beau, il adore les animaux, un berger allemand qui protège ses bibelots, son petit appartement. Il emmène à la chasse, flinguer les petits oiseaux, parce que trop dégueulasse, il taquine le moineau. Mon beau. Choisit ses copains, mais rarement sa famille. Y'a un gonze mine de rien, qui a marié ma frangine. Il est devenu mon beauf, un beauf à la cabu. Imbécile et facho, mais heureusement cocu. Quand le soleil brillera que pour les cons, il aura les oreilles qui chauffent. Mon beauf. Thank you.
format.
Léo Ferré, nous évoquions tout à l'heure donc vos débuts, vraiment en quelques mots, grâce à Richard Marsan, c'était en 1955. Depuis ces années-là, vous êtes avec nous constamment. Et pour Jean-Louis Trintignant, merveilleux acteur que vous connaissez, vous êtes aussi indispensable que l'eau et l'air.
Si vous voulez que je parle de Léo Ferré, j'en parle volontiers. C'est mon univers, je vis vraiment dans Léo Ferré. Je n'écoute que ça, je ne lis que ça. C'est immense, l'œuvre de Ferré. On ne le sait pas, mais... Il a écrit énormément de choses qu'il ne chante pas aussi et qu'il faut lire, qui sont sublimes, des choses magnifiques. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en ce moment, Ferré. Et je trouve qu'on a la tête remplie de mots inintéressants, de phrases inintéressantes, dans tous les domaines. Et quand on a la chance de découvrir un poète, en raccourci, on a absolument tout ce qui se passe dans la vie. Par exemple, il y a un slogan de l'Appel des Cent qui dit « J'aime la paix ». J'aime la paix, ça ne veut rien dire, tout le monde aime la paix. Hein. Mais Ferré a écrit par exemple une phrase là-dessus dans son dernier disque, il y a une phrase, c'est « Une fusée Pershing dans un nid de colombes ». On pense que les poètes sont inutiles, mais ils ne sont pas inutiles. Quand ils disent des choses comme ça, ils disent beaucoup plus que toutes les phrases qu'on peut lire dans les journaux ou les images qu'on peut voir à la télévision. On est bourré de choses inutiles et sans aucun sens. Alors qu'un poète comme Ferré, en une phrase, il dit tout.
Vous saviez que...
On me l'a dit, et bien sûr, moi je ne le connais pas personnellement. Et non, je ne peux pas répondre, ça me fait plaisir, mais mettons que ça me fasse rougir à l'intérieur, quoi.
Non, mais vous pouvez répondre. C'est-à-dire qu'on peut quand même développer un peu. Est-ce que, bon, c'est vrai, un poète en raccourci, disait Jean-Louis Trintignant, ça peut d'une phrase, il prenait très, très bien la fusée au milieu des oiseaux.
Oui.
Donc, violence et paix, enfin, on vit dans un monde bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Mais vous savez, moi, j'ai écrit ça, même je pense comme vous, je veux pas dire autre chose, quoi. Quand j'ai écrit ça, je le pensais vraiment, quoi. C'est moi, la force du poète, enfin, c'est le raccourci, voilà, c'est ça.
C'est un don.
C'est un don, mais c'est un don obligatoire, parce que, à partir du moment où... Moi, c'est la chanson qui m'a beaucoup appris, vous savez, en 3 minutes, il faut dire ce qu'on pourrait dire en plusieurs pages, et bien d'ailleurs aussi, mais c'est plus facile de le dire en 3 minutes, peut-être que le raccourci impose des fréquences plus fortes.
Enfin, c'est plus dur de faire une chanson qu'un livre, peut-être.
Peut-être, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est moins long.
C'est-à-dire, si on dit que vous êtes le dernier des poètes, c'est lourd à porter, ça aussi?
Mais vous savez que qui c'est, je sais pas ça, les poètes. On m'a jamais fait de compliment comme ça, depuis qu'on me dit ça. Les gens qui ont entendu Jean-Louis Trintignant parler comme ça d'une façon aussi amicale et aussi tendre, je dois dire, aussi affectueuse. Parce que l'affection peut exister entre les personnes même qui ne se connaissent pas. Hein. L'affection, c'est quelque chose de précis, puis on sait pas, tout d'un coup, on tourne la tête, on sort, on voit un drame, on voit l'affection tout de suite. On l'attendait pas, c'est ce qui m'est arrivé avec ce qu'on m'a raconté de Trintignant qui a parlé de moi. Je crois qu'il est facile pour moi de répondre à quelqu'un qui crie après moi, qui dit des choses méchantes, et il m'est beaucoup plus facile de lui répondre que quelqu'un qui me...
Ah oui, c'est vrai. Au fond, c'est peut-être pas très confortable, cette position qu'on vous demande d'occuper actuellement. Vous êtes encensé, reconnu, honoré, et vous préfériez être un marginal en guerre contre la société. C'était peut-être plus confortable d'être dans l'opposition.
Non, si j'avais été reconnu il y a 20 ans ou 30 ans, ça m'aurait fait plaisir aussi. Hein.
Mais ça vous aurait pas possible. Pu créer aussi.
C'est pas possible.
Alors, je crois que maintenant, il faut écouter les poètes, parce que là, une chanson vaut mieux qu'un long discours. C'est un merveilleux raccourci, Léo Ferré.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'air des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Léo Ferré, beaucoup de journalistes se sont penchés sur votre biographie, mais un journaliste politique, Michel Labro, avait écrit un article qui nous avait beaucoup intéressés. Il l'avait fait pour l'Express, il est maintenant à l'événement du jeudi, c'est Michel Labro. Et comme on parlait poésie politique d'entrée, je pensais que c'était bien de l'écouter maintenant et de lui demander à lui de faire le point sur le Léo Ferré d'aujourd'hui.
Lorsque j'ai écouté Ferré, dans le début des années 60, il avait déjà l'image du chanteur engagé. Mais à l'époque, il était plutôt confidentiel. Et puis, mai 68. Et là, phénomène extraordinaire, ce n'est pas Ferré qui a récupéré 68, c'est 68 qui a récupéré Ferré. Les idées du mois de mai, il les avait déjà exprimées dans ses chansons. De là, cette réputation de prophète de la révolte étudiante qu'il a suivie jusqu'à aujourd'hui. L'image est-elle juste? Je n'en suis pas bien sûr. La politique, je crois qu'en réalité, Ferré ne s'y intéresse plus beaucoup. Quand on le voit comme un maître penseur, ça l'emmerde et même ça lui fait peur. Parce qu'il y a chez lui une vraie timidité qui est celle de beaucoup de gens qui montent sur scène, et puis parce qu'il est beaucoup trop imprévisible, beaucoup trop contradictoire pour se ranger derrière un drapeau ou un parti. Alors me direz-vous, où est le chanteur libertaire, le Ferré provocateur, sulfureux? Eh bien pour moi, il est tout simplement dans ses chansons. Ses textes, sa musique, la violence, la maîtrise aussi, avec laquelle il interprète un Rimbaud ou un Verlaine, c'est peut-être ce qu'il a apporté de plus révolutionnaire à la chanson française. Et là, il est prodigieux et tout simplement irremplaçable.
Il dit que 68 vous a récupéré. Enfin, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement?
Je pense qu'il a voulu dire que 68, c'est pas moi qui ai fabriqué 68, bien entendu. Les gens se sont reconnus parce que j'ai peut-être écrit des choses avant 68 qui ressemblent à 68, quoi. Et ça, c'est une concorde de circonstances, ou alors, allez savoir, je suis peut-être un devin, vous comprenez.
Alors, cette révolte lycéenne que vous avez peut-être suivie des environs de Sienne où vous habitez actuellement, est-ce qu'elle ressemblait pour vous à...
Pas du tout. Non. Beaucoup plus... dans une certaine mesure, avec les yeux intelligents, beaucoup plus sensibles et beaucoup plus déterminés. Ils sont pas mal, ces jeunes. Je veux dire, je veux pas dire... des choses contre 68. 68, c'était un peu une sorte de, dans le bon sens du terme, de farandole, voyez-vous. Tandis que là, ils ont voulu quelque chose, ils disent, nous avons ça, nous continuons. Et l'autorité s'est déculottée. Voilà, c'est pas mal, vous savez ça.
Peut-être parce que les manifestations ressemblent à des fêtes.
Là, ça ressemblait pas à une fête, je crois pas.
Non.
Non. En 68, ça ressemblait à une fête.
Vous trouvez que ça ressemblait
à un certain moment, oui. Vraiment. Une fête dans le, aussi, c'était merveilleux. Hein. Moi, je me souviens un soir de 10 mai 68, j'ai chanté la mutualité pour les anarchistes, mes amis, et après, j'ai fait une balance en théâtre. Là. Je suis allé dans un café, là, sur la place, et j'ai vu à ce moment-là des choses extraordinaires que je n'avais jamais vues, qu'on n'a plus revues d'ailleurs. Les étudiants et les professeurs dans la rue marchant, sans armes, bien entendu. Et j'ai vu, alors j'ai eu les larmes aux yeux tout de suite, parce que ça voulait dire beaucoup de choses, un drapeau rouge et un drapeau noir. C'est la première fois que je voyais un drapeau noir, moi, dans la rue, comme ça. On dirait que le drapeau, c'est toujours un drapeau, bien entendu. Mais noir, c'est mieux que les autres.
Léo Ferré, il faut écouter un peu de musique. Que voulez-vous entendre? Une chanson, un peu de musique classique? Ça, je sais que vous n'aimez pas qu'on la tronçonne et que vous reprochez ça beaucoup à la radio, de chinter les disques, comme on dit, c'est-à-dire de les couper avant la fin.
Ben, si vous pouvez passer une chose, vous devez avoir la référence. J'ai écouté l'autre jour, ça doit être la première face de son disque, Barbara Streisand qui chante des musiciens classiques. Elle chante un Debussy fantastique. C'est une chanteuse extraordinaire. Et moi, je souhaite qu'un jour, je vous souhaite la connaître et enregistrer quelque chose avec elle. Voyez-vous, dans ce disque que je viens de faire, elle devrait faire le colloque sentimental. Ça lui irait très bien. Puis une ou deux autres, peut-être aussi. Fantastique personne.
Léo Ferré, grâce à un nouvel album, un nouveau disque, il est revenu parmi nous, puisque Léo Ferré n'aime pas beaucoup passer à la radio et à la télévision, et votre place pourtant est bien restée chaude, vous savez, personne ne l'a prise. Alors, Nous évoquions tout à l'heure le poète, l'homme politique dans un certain sens. On a toujours un rôle politique, puisque beaucoup de choses sont politiques dans la vie. Déjà, dès qu'on ouvre la bouche, on est politique. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la vie de famille et de la vie d'artiste. Alors, comment se passe une journée de Léo Ferré ? Nous avions un témoin tout à fait merveilleux qui a accepté de nous parler. C'est votre épouse, Madame Léo Ferré.
Le matin, quand il se lève, il est toujours très énervé, mais il a vite oublié. Et sinon, il est comme tout le monde. Il n'est pas du tout bricoleur. Et il demande à ce que je le fasse ou quoi. Il se promène et puis il travaille dans son imprimerie et dans son piano et ses textes et voilà.
Eh oui.
Léo, le matin, pas de bonne humeur.
C'est vrai. Et vous savez, dernièrement, je disais à Marie, Mathieu, nous avons pris une décision avec Mathieu, je vais souvent l'accompagner quand je suis à la maison, en voiture jusqu'au village pour qu'il prenne le car pour aller à l'école à Sienne. Alors je me lève à 6h30, je vais là-bas. Alors, sans qu'on s'explique particulièrement, quand on se lève, on ne parle pas. On ne se dit même pas bonjour et tout. Parce qu'il n'aime pas parler, et moi non plus. Et c'est un râleur.
Mathieu, c'est votre fils qui a 17 ans, nous l'écouterons tout à l'heure.
C'est un râleur, et je me suis aperçu l'autre jour que j'étais aussi râleur que lui, alors il me ressemble.
Normal, les pommes, comme on dit, ne tombent pas loin
des pommiers.
Alors, il travaille un peu trop, on pourrait vous faire ce reproche, selon votre épouse. Vous travaillez trop.
Oui, mais enfin, ça fait partie de ma vie, et puis le travail, vous savez, c'est... J'ai trouvé l'année dernière, c'est un défaut, une qualité, je crois. J'ai trouvé une définition pour qui me va très bien. Ça fait plaisir d'avoir trouvé ça parce que j'ai souvent été ennuyé par ces histoires de travail comme ça. Et quand je suis seul, bien sûr, je n'en parle à personne. Et vous savez ce que je suis ? J'ai trouvé la formule. Je suis un paresseux qui travaille tout le temps. Et c'est vrai ça. Ça, c'est terrible.
Alors, quand Léo se met au piano, c'est-à-dire au fourneau, eh bien, ça donne des bons résultats. Marie.
Il a mis les trucs de son enfance, les raviolis, la pisse à la bière, la daube, les pâtes.
Et on n'est pas italien pour rien.
Non, mais je suis d'origine italienne. J'étais à Monaco et je me souviens, ma mère faisait la cuisine et sa tante, donc la soeur de ma grand-mère, qui s'appelait tante Hélène, elle faisait les raviolis et les... Alors c'était une chose extraordinaire. Elle en faisait beaucoup, beaucoup. Et puis son mari, mon grand-oncle, donc, se levait le matin à 5h, il mettait la sauce tomate à cuire jusqu'à 11h du matin. Vous savez qu'une sauce tomate qui cuit pendant 5-6 heures, ça devient une chose extraordinaire. Et il m'avait dit un jour, tu vois, Léo, il faut pas le gaz, il faut le fourneau avec le charbon de bois. Alors là, c'est fantastique. Et des fois, il oubliait de ma tante oubliait d'enlever la casserole. Alors il appelait, il disait, ma tante l'appelait, il avait oublié d'enlever la casserole plutôt. Ma tante l'appelait en disant, la salsa attaque. C'est-à-dire que ici, la sauce attache, parce que il avait laissé trop longtemps sur le feu. Ce qui fait qu'on mangeait comme des chefs, sans savoir que nous étions des chefs. Manger comme un chef, ça veut dire manger une œuvre d'art, l'art culinaire. Et je crois que c'est de plus en plus rare maintenant. C'est dommage, je crois que les femmes, les jeunes femmes, n'ont plus le temps. Maintenant, la femme travaille, n'a plus le temps de faire la cuisine, de l'apprendre. Je connais des femmes qui m'ont dit, j'ai horreur de la cuisine. C'est terrible d'entendre ça. Et pourtant, bon, je sais pas. Alors moi, pour éviter d'entendre ça, quand je suis seul, je fais la cuisine moi-même.
Vous êtes un véritable chef de famille. Écoutons Marie encore.
Il suit les résultats de son fils et de ses deux filles. Il n'est pas du tout sévère. C'est moi qui serais plus sévère. 5 minutes après, il ne sait pas pourquoi il était en colère. Il lit beaucoup. Là, on est en tournée, il n'en a pas parce qu'on est fatigué. Et puis à la maison, il change tout le temps. Il lit les poètes, tout sur la politique.
Un peu dictateur, comme
ça. Ah non, mais elle me connaît bien, quoi.
Oui. Il y a trois enfants, hein, il y a quand même.
Trois enfants, oui. 9 ans, 12 ans et demi, et 17 ans bientôt, quoi.
L'aîné, Mathieu.
Oui.
Marie dit que vous êtes en colère, que vous dites des choses, puis que cinq minutes après, vous pouvez dire le contraire. Ça, non, ça c'est...
Non,
c'est la furia italienne.
Non, c'est pas la furia italienne. Vous savez, moi, j'oublie toutes les choses très vite. Je peux me mettre en très, très, très en colère. Et trois minutes après, ne plus savoir que j'étais en colère. Et on me le reproche. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu avais? C'est vrai. Ça ne regarde que moi et les autres, qui, peut-être qu'ils souffrent à ce moment-là, mais ils souffrent pendant deux secondes, quoi.
Au cours du prochain chapitre, on va parler un petit peu de Mathieu et de votre enfance et de la sienne. J'aimerais que nous écoutions une chanson, encore une chanson que vous aimez.
Tenez, une chanson de Jonas. Vous la choisirez.
Merci.
Numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois.
Le fils est donc maintenant un petit peu connu. Son visage est sur la pochette du nouveau disque de Léo Ferré. Il est beau. Il s'appelle Mathieu. Il a 17 ans. Et il parle de son père.
Je dois dire une première chose, que mon père n'est pas tout sévère avec moi. Quand sur mon affaire à l'école, c'est pas qu'il me suive trop, parce que je crois pas que ça l'intéresse beaucoup. Mais De temps en temps, il me corrige des devoirs de français surtout. Et puis, nous nous entendons très bien ensemble parce que nous avons des points de vue assez pareils. Et puis, même si de temps en temps, nous discutons un peu parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Je suis complètement libre de faire ce que je veux. Je peux sortir quand je veux, quoi. Parce que quand il était petit, lui, son père était assez... Elle ne voulait pas trop qu'il sorte, alors je crois qu'avec moi, il fait ce qu'il aurait voulu que son père fasse avec lui. Je crois qu'il aimerait bien que je sois bien préparé à la vie, tout ça. Et j'aimerais faire confier à mon amour, mais c'est pas très... Enfin, je sais pas. Moi, je... Comme ça. Parce que ma mère n'est pas très d'accord sur ce point-là. Et c'est lui qui m'a dit que j'aurais pu faire ça.
Ça mérite une explication quand même, croquer à Monaco, parce que c'est votre père...
Il est monégasque.
Oui. Votre père était responsable des jeux au casino de
Monaco. Non, il n'a pas pu être responsable des jeux parce qu'il était sourd. Il avait été employé des jeux, et puis un jour il était obligé d'arrêter parce qu'il était devenu un peu sourd, quoi. Et il est devenu après, plus tard, directeur du personnel, donc il connaissait bien. Et moi, j'ai vu le casino par l'autre côté. C'est pour ça que j'ai horreur du jeu, ouais. Parce qu'on m'a dit tout ce que c'était que le jeu, n'est-ce pas? C'était terrible, quoi.
C'est-à-dire...
On m'a raconté des histoires. Oui, c'est terrible. Et alors j'ai dit à Mathieu un jour, j'étais à moitié sérieux, à moitié en rigolant, je lui ai dit, tu devrais faire le croupier. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que tu es monégasque, tu gagneras beaucoup d'argent, tu ne paieras jamais un sou d'impôt parce que tu es monégasque. Voilà, quoi. Alors c'est ça le travail, ça.
Sérieusement, est-ce que vous... Donc, ça ne sera pas un autre vous-même, je veux dire, Mathieu.
Non, mais en fait, les enfants ne sont jamais un autre vous-même. Hein. Vous devez le savoir, j'en sais rien, mais de toute façon, il fera ce qu'il voudra. Et d'ailleurs, il a beaucoup de personnalité et il sait ce qu'il veut. En tout cas, il saura ce qu'il voudra dans quelques années, dans 3, 4, 5 ans, quoi. Sûrement. Il est solide, ce garçon.
Votre maman était Scotto, est-ce que c'est...
Oui. Ça n'a rien à voir avec Scotto, non. Donc, Scotto est là,
on ne peut pas dire que Léo Ferré, poète et musicien, soit issu d'une famille d'artistes.
Non, pas du tout.
D'artistes,
non, pas du tout, non. Mais ça, c'est très rare, vous savez, que l'artiste donne naissance à un autre artiste. Hein. Alors, s'il est plus petit, quoi.
Bruegel. Dépasser, oui.
Ah, oui, c'est ça, oui, ça arrive.
Bruegel, oui.
Bruegel, oui. Et les Bruegel, oui, il y avait le vieux, le jeune, l'autre, enfin, ils étaient trois ou quatre, quoi. Mais en principe, vous savez, on fait ça pourquoi? On ne sait pas. On est les porteurs d'une autre planète quelque part. Je veux parler dans la tête. Quoi. Et alors, on peut aider les gens des fois, ou des fois les mettre dans un état d'attente et d'interrogation. Les gens se posent des interrogations parce que ils se posent des problèmes. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là dans la marge? Il est artiste. Ah, que ça veut dire ça, artiste? Et puis après, un jour, l'artiste est reconnu par tout le monde. Alors, ça devient l'idole, vous comprenez? Et quand il meurt, on met une statue, quoi. Alors que je dis que avant longtemps, je dois dire, il n'y aura plus rien sur la terre, quoi. Et puis un jour, tout sera fini, tout sera brûlé, il restera plus la tombe de quiconque. Et de souvenir aux personnes, ce que l'artiste peut aider à les autres à vivre à un certain moment de leur vie. C'est ce qu'il doit souhaiter quand il sait que c'est un artiste.
Et les enfants, en fait, fréquentent beaucoup plus les poètes que nous, puisqu'ils les étudient à l'école, alors que nous, souvent, on les oublie. Rimbaud, on l'apprend à l'école, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est un des poèmes, enfin, on l'apprend en principe. Vous avez eu la bonne idée de mettre de la musique au
bar. Oui, d'accord, mais on l'apprend pas tellement, vous savez. Là, oh là là, la plupart des temps à qui je fais, ils ne savent pas ce que c'est, ça. Alors cet extrait, donc, c'est la première phrase de cette poésie qui s'appelle « Roman » de Rimbaud, qui est extraordinaire. Si j'ai fait ça, c'est parce que... Oui, je l'ai fait au piano, et quelques temps après, un copain, un belge qui fait des photos, qui est un artiste, voyez où cette photo en couleur, elle est peinte. C'était fait en blanc et noir.
Ah oui, il est recolorié comme les films anciens que l'on recolorie maintenant.
Alors il m'a demandé ça, et je lui ai dit, tu vois, je vais faire cette chanson. Donc je viens de faire cette chanson sur les paroles de Rimbaud, on n'est pas arrivé quand on a 17 ans. Je vais la mettre sur la première page de la pochette, avec la photo de Mathieu. S'il ne m'avait pas apporté cette photo, je crois que je n'aurais pas fait ça. Ou je ne l'aurais peut-être pas enregistré. Voilà.